La description n'est cependant que le degré le plus bas de la science. Celle-ci ne s'achève que par l'interprétation des choses. Or, pour cette interprétation, une autre condition est requise dont l'existence dans les faits sociaux a été tout aussi longtemps niée. Interpréter les choses, ce n'est rien d'autre que disposer les idées que nous en avons, selon un ordre déterminé qui doit être le même que celui de ces choses. Ce qui suppose que, dans les choses elles-mêmes, cet ordre existe, c'est-à-dire qu'il se trouve des séries continues dont les éléments sont liés entre eux de telle sorte qu'un effet résulte toujours de la même cause et ne peut sortir d'une autre. Que l'on suppose au contraire détruire la nécessité de ce lien causal, les effets pouvant se poursuivre sans cause ou à la suite d'une cause quelconque, tout devient aussitôt capricieux et fortuit. Or, ce qui est capricieux n'est pas susceptible d'interprétation. Il faut donc choisir, ou bien les choses sociales sont incompatibles avec la science, ou bien elles sont gouvernées par la même loi que les autres parties de l'univers. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner à fond toute cette question. Nous voulons montrer seulement qu'aucune science des sociétés n'est possible si elle échappe à cette loi. Et la science faisant défaut, c'est aussi l'art lui-même, nous l'avons vu, qui s'évanouit en même temps, à moins qu'on ne fasse appel pour établir les règles de la vie humaine à on ne sait quelle faculté autre que notre raison. D'ailleurs, comme ce principe d'après lequel tous les phénomènes de l'univers sont étroitement liés entre eux a déjà été mis à l'épreuve dans les autres domaines de la nature et qu'il ne s'y est jamais présenté comme faux, il est fort vraisemblable qu'il est valable aussi pour les sociétés humaines, lesquelles font partie de la nature. Rien en effet n'est plus opposé à une bonne méthode que de supposer à cette règle tant d'exceptions dont nous ne connaissons pas même un exemple. Beaucoup, il est vrai, ont objecté que cette nécessité est inconciliable avec la liberté humaine. Mais comme nous l'avons déjà dit dans un autre ouvrage, cette discussion doit être écartée. Car si le libre arbitre supprime vraiment les lois nécessaires, comme la volonté se manifeste inévitablement dans les choses extérieures, ce n'est pas seulement l'esprit. Ce sont aussi le corps et les choses inanimées qu'il faut reconnaître étrangères à tout ordre et par suite à toute science. Or, il n'est personne aujourd'hui qui oserait mettre en question la possibilité des sciences de la nature. Il n'y a pas de raison pour que la science sociale ne jouisse pas du même statut. Pourtant, les hommes et les philosophes eux-mêmes sont naturellement enclins à rejeter des choses sociales le principe dont nous parlons. En effet, nous croyons ordinairement que nos actes n'ont pas d'autre raison que celle dont l'action sur notre volonté apparaît à la lumière de la conscience, et nous nions l'existence des autres parce que nous ne les sentons pas. Nous faisons de même pour les institutions sociales. C'est aux causes les plus apparentes que nous attribuons la puissance la plus grande, bien qu'elles la reçoivent d'autres causes. N'est-ce pas une tendance naturelle que de tenir ce qui est premier selon l'ordre de la connaissance pour premier aussi dans l'ordre de la réalité ? Or, y a-t-il dans les institutions politiques, juridiques, religieuses, quelque chose qui soit plus manifeste, qui frappe davantage le regard que la personnalité de ceux qui ont gouverné les États, rédigé les lois, établi les cérémonies sacrées ? Aussi, la volonté personnelle des rois, des législateurs, des prophètes ou des prêtres semble être la source d'où émane la vie sociale tout entière. Tous ces actes s'accomplissent en effet sous les regards de tout le monde, et n'ont en eux-mêmes rien d'obscur. Le reste, au contraire, demeurant caché parmi les éléments peu apparents de l'organisme social, ne peut être aperçu facilement. C'est de là qu'est née cette superstition si répandue d'après laquelle le législateur, doué d'un pouvoir à peu près illimité, serait capable de créer, modifier, supprimer les lois selon son bon plaisir. Les historiens ont beau avoir aujourd'hui démontré que le droit est issu des mœurs, c'est-à-dire de la vie elle-même, moyennant de minimes développements intervenant peu à peu et en dehors des intentions concertées des législateurs, l'opinion en question est si profondément ancrée dans l'esprit humain que beaucoup y persévèrent encore. Qu'il accepte cependant doit se refuser à admettre qu'il existe un ordre déterminé dans les sociétés humaines. En pareil cas, en effet, les lois, les mœurs, les institutions dépendraient non pas d'une nature constante de l'État, mais de l'événement fortuit qui a suscité tel ou tel législateur. S'il est vrai que des mêmes citoyens sous l'autorité d'un autre chef, un autre État peut sortir la même cause dans les mêmes circonstances, aura le pouvoir d'engendrer des effets différents. Les choses sociales n'ont donc pas de lien rationnel. Rien n'a davantage retardé la science sociale que cette manière de voir que les philosophes eux aussi ont tous accepté, soit consciemment, soit inconsciemment. Les autres obstacles que nous avons indiqués ci-dessus ou dont nous parlerons plus bas ne pouvaient en effet être écartés tant que celui-ci subsistait. Tant que tout dans les sociétés paraissait livré à une telle contingence, il ne pouvait venir à l'esprit de personne de les classer par type et par espèce. Il ne peut y avoir de type dans les choses s'il existe des causes qui, tout en faisant sentir leur puissance en des lieux et à des moments différents, engendrent toujours et partout les mêmes effets. D'autre part, si le législateur organise et dirige arbitrairement la vie sociale, où trouvera-t-on matière à science ? Tout ce qui est matière de science consiste en des choses qui possèdent une nature propre et stable et sont capables de résister à la volonté humaine. Si au contraire elles sont, pour ainsi dire, flexibles à l'infini, rien ne nous excitera à les observer. Il n'y aura même en elles rien que l'observation puisse chercher à saisir. Car si elles avaient par elles-mêmes une nature propre, personne ne pourrait les arranger selon son bon plaisir. De là vient que la science sociale n'a été longtemps qu'un art. Mais dira-t-on, personne n'a jamais nié que la science de la nature humaine ne fut nécessaire à qui veut diriger les hommes. Je l'accorde. Mais comme nous l'avons montré ci-dessus, cette science doit être appelée psychologie et non pas science sociale, car elle a trait à l'homme individuel, non à la société. Pour que la science sociale existe réellement, il faut que les sociétés possèdent une certaine nature qui résulte de la nature même des éléments dont elles se composent, ainsi que de leurs dispositions, et qui soit la source d'effets sociaux. Ces éléments, une fois posés, ce personnage du législateur et sa légende s'évanouissent.